بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, فسنيسره للعسرى, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. La dernière fois, ainsi que le vendredi d'avant, on avait vu l'autre ayat du Coran. On avait vu que ce ayat, selon la majorité des mufassirin, a été révélé pour Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Abu Bakr, comme on a vu vendredi dernier, les qualités innombrables dans tous les domaines de la foi, dans tous les domaines de la religion, tant de l'ibadat, tant de le khidmat, dans les mu'amalah, dans le akhlaq, dans toutes les choses de sa vie, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu était le meilleur, il avait devancé tous les sahaba. Et c'est pour cela qu'Allah ta'ala l'a donné un manzila, un degré supérieur à n'importe qui. On avait vu donc les vertus de Abu Bakr. Et on avait surtout souligné cette règle qui veut que, comme certains ulama disent, min thawab al-hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jaza'i as-sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Lorsqu'une personne accomplit une bonne action, Allah Ta'ala le récompense en lui donnant la possibilité de faire encore d'autres bonnes actions. Et une des conséquences des péchés, c'est que Allah Ta'ala laisse cette personne s'enfoncer dans les péchés. Et on avait vu que ces deux ayats, les deux ayats qu'on avait commentés la dernière fois, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, avec celui qu'on commente aujourd'hui, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, on avait dit que ces deux versets prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala agit avec le serviteur en fonction de ses actions. Si une personne manifeste le désir de se rapprocher d'Allah, si une personne fait le premier pas vers Allah, Allah ta'ala lui donnera la possibilité de se rapprocher de lui. Mais si dès le départ une personne montre son éloignement et son manque d'intérêt, ou alors l'inexistence totale d'intérêt pour Allah, pour le dîn d'Allah, et que cette personne ne fait aucun effort pour accomplir de bonnes actions, alors Allah Ta'ala, peu à peu, va l'éloigner. Il va laisser cette personne s'enfoncer dans les péchés. Et on avait vu la dernière fois le premier ayat qui prouve que la personne qui donne dans le chemin d'Allah, qui a la crainte d'Allah, Allah Ta'ala l'accepte. Oui? Et là, on va voir l'autre ayat qui dit que la personne qui, contrairement au premier cas, qui donne le chemin d'Allah, celui-là, il fait preuve de bukhl. C'est-à-dire, cette personne est avare. Cette personne ne donne rien. Il garde ses biens. L'autre cas, c'était وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, qui croyait en la rétribution au paradis. Il savait qu'en donnant le chemin d'Allah, en accomplissant des bonnes actions, il savait que Allah Ta'ala lui accordera un paradis. Allah Ta'ala lui accordera des hasanats, des thawab. Allah Ta'ala lui accordera telle chose de ce bas monde, dans la tombe, dans le qabr et dans le akhirat. Ce deuxième cas de figure, cette personne ne donne pas. Et cette personne, wastarna, il se dispense de l'adoration d'Allah. Non seulement il ne donne pas de sadaqa, mais il ne s'investit pas dans l'ibadat. Et en plus, traite de mensonge à plus belle récompense, il ne croit pas en la récompense qu'il y a de l'au-delà. Alors pour cette personne qui a ces défauts-là, Allah Ta'ala, il va laisser cette personne dans la perdition, et cette personne va s'éloigner et s'éloigner de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, rahimahullah, commente, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَعْنَا, il dit, أَيْ بَخِلَ بِمَالِهِ, c'est-à-dire cette personne qui fait preuve d'avarice, avec ses biens, il ne donne pas, il ne dépense pas dans le chemin d'Allah, وَاسْتَعْنَا عَنْ رَبِّهِ, et c'est comme si il n'avait pas besoin d'Allah. Il ne fait pas d'ibadah, il ne recherche pas le contentement d'Allah, et il ne croit pas au qiyamah. Il ne croit pas en la récompense, en la rétribution du jour de qiyamah. Et d'une manière générale, lorsqu'une personne ne donne pas dans le chemin d'Allah, lorsqu'une personne fait preuve d'avarice, et que cette personne s'abstient, que cette personne n'éprouve pas le besoin de faire l'adoration d'Allah, En général, c'est une personne qui ne croit pas ou alors qui croit quasiment pas en une rétribution de l'au-delà. Assez complexe. Wamamam Bakila Wasterna, en général, ça marche avec Wakadabahusna. Lorsqu'une personne ne donne pas du tout, on lui dit qu'il y a telle personne qui est dans le besoin, ou alors la masjid a besoin de ton aide, etc. Il ne donne pas, il ira bien. Et il ne fait pas d'effort pour faire l'adoration d'Allah non plus. D'accord? Dans la majorité des cas, une personne qui agit de cette manière, c'est que cette personne, soit elle ne croit pas en l'au-delà, soit son yaqin sur le akhirat, son yaqin sur l'au-delà, sur les récompenses, est quasiment inexistant. Parce qu'une personne qui ne donne pas, qui s'accroche à ses biens, et qui fait passer ses biens avant le droit des gens, même avant le droit d'Allah, cette personne, tout d'abord, elle a la certitude que c'est elle qui a gagné cet argent. Une personne qui ne donne pas, une personne qui est avare, c'est une personne qui tient ses biens, c'est une personne qui est persuadée que cet argent, c'est lui qui l'a gagné, c'est moi qui ai gagné cet argent. Parce que s'il savait que Allah donne quand il veut, et Allah reprend quand il veut, jamais il ne réagit de la sorte. On a vu un hadith une fois, Imam Qurtubi, rahimahullah, il avait cité, non pas Imam Qurtubi, un autre riwayat, on a vu que le Prophète avait dit que lorsqu'une personne vous demande, il ne faut pas refuser immédiatement. Parce que Allah Ta'ala parfois envoie des gens qui ne sont ni des êtres humains, ni des djinns, et qui viennent vous éprouver, qui viennent vous tester, pour voir comment vous agissez avec ce qu'Allah vous a donné. C'est hadith ça. C'est hadith dans lequel le Prophète dit que parfois, en ce sens, qu'Allah Ta'ala envoie, donc ce n'était pas des êtres humains, ce n'est pas des djinns, c'est quoi? Ça reste une option, c'est des malaïka. Allah Ta'ala peut envoyer des anges sous l'aspect d'un être humain, et que cette personne vient vous voir, il vous demande de l'aide financière. D'accord? Et il ne faut surtout pas refuser. Il ne faut pas, du manière générale, on se dit, mais c'est présent, on n'a pas les moyens, on ne lui donne pas. Allah connaît ce qu'il y a dans le cœur. Mais il ne faut pas dire, quelqu'un dit que n'importe qui, demande-moi, on ne lui donne pas. On ne lui donne pas personne, on n'a pas confiance, personne, on ne lui donne pas. Si une personne refuse systématiquement, alors il se peut que c'est quelqu'un qu'Allah Ta'ala a envoyé pour vous éprouver, pour vous tester, pour voir votre réaction, ce sera quoi, et Allah peut prendre une décision en fonction de votre réaction. L'histoire, on avait déjà expliqué la personne qui était chauve, celle qui avait une maladie de la peau, celle qui était aveugle, et qu'Allah avait donné beaucoup de bienfaits, il avait donné de la santé et beaucoup d'argent, et ensuite Allah Ta'ala avait envoyé un ange pour tester, longtemps après, hein, pour tester la générosité de chacun. Alors le premier a dit, ah non, ça cet argent-là, c'est moi qui l'a gagné. Alors que c'est Allah qui l'avait donné d'un coup. L'autre ici a dit, non, ça c'est à moi, c'est moi qui l'ai gagné. Et la veuve, c'est le seul qui s'est dit, il a réalisé que Allah m'a tout donné alors que je n'avais rien, et donc il a aidé cette personne, cet ange donc, etc. Et Allah Ta'ala a repris les bienfaits avec les deux premiers, et Allah Ta'ala a laissé les ni'amat avec le troisième. C'est-à-dire qu'en fonction de notre réaction par rapport à une personne qui demande la sadaqa, Allah Ta'ala peut prendre des décisions en notre faveur ou contre nous. D'accord? Donc la personne qui ne donne pas, elle est persuadée que cet argent, c'est lui qui a gagné, c'est moi qui a gagné, donc j'ai mérité. Si tu as besoin, ben fais comme moi, travaille et tu gagneras toi aussi. Mais quand tu as à te donner comme ça, ben lâche, gratuitement, sans contrepartie, ça il ne faut pas rêver, ça ne se fait pas. C'est immoral. Ça c'est les personnes qui ne donnent pas, qui font preuve d'avarice, c'est ce qu'ils pensent. Deuxième chose, on entend expliquer pourquoi une personne qui ne donne pas, en général, elle a un faible, elle a soit, elle n'a pas de yakin sur le akhirat, ou soit son yakin sur le akhirat est vraiment amoindri. Deuxième chose, cette personne qui ne donne pas, elle est persuadée que cet argent lui procure le bonheur, cet argent lui procure l'honneur, et cet argent lui donne le pouvoir. Et elle ne croit pas que c'est Allah qui manique al-mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi' al-mulka liman tasha, la personne qui s'agrippe à ses biens, elle pense que c'est cet argent-là qui lui donne de l'importance. Cet argent-là va lui faire avancer, cet argent-là l'honore, cet argent l'élève, cet argent lui donne sa renommée. Et il ne comprend pas que c'est Allah qui donne. Quand il veut, il reprend quand il veut. Allah élève qui il veut quand il veut, et Allah rabaisse quand il veut. Même si cette personne est devenue l'homme le plus apprécié du dunya. Allah Ta'ala donne le pouvoir, Allah Ta'ala reprend le pouvoir. Tout est dans les mains d'Allah. Mais la personne qui est avare, il n'a pas ce yaqin. Pour lui, c'est mon argent, cet argent-là me donne cette notoriété, si je donne, ça va diminuer. Troisièmement, la personne qui est radin, qui ne donne pas dans le chemin d'Allah, on peut dire également que son yaqin au akhirat est amoindri parce que cette personne ne croit pas au texte. Cette personne ne croit pas au texte qui annonce les récompenses pour la sadaqa. et Allah seul sait quelles sont les récompenses. Mme Zakaria a compilé un livre sur Fadl al-Sadaqa. Pour vous faire comprendre comment la Sadaqa, derrière la Sadaqa, il y a énormément de récompenses. Et la personne qui est consciente qu'il y a beaucoup de vertus, mais malgré cela, elle ne donne pas. Il y a un problème. C'est que son yaqin est faible. Soit il n'y a pas de yaqin au akhirat, soit son yaqin, c'est à 1% ou 0,5%. Vous voyez? Et également, son yaqin, c'est le paradis même, Allahu a'lam. Une personne qui garde, qui ne donne pas, est-ce qu'il a vraiment conscience qu'il y a un jour un paradis et que dans ce paradis, il récoltera les fruits de ses sadaqas, de sa zakat, de ses aides, de ce qu'il a fait comme a'mal salihah? Donc, en général, une personne qui est attachée à ses biens, qui ne veut rien donner, et pire encore, une personne qui fait passer son mahabba, son attachement pour ses biens avant l'adoration d'Allah, c'est grave. Parce que cela traduit soit l'inexistence de yaqin sur le akhirat, et peut-être qu'il y a un problème de son iman même. Et là, on va plus loin là. Peut-être que son iman même est bancal. Peut-être qu'il ne croit pas en l'au-delà. Est-ce qu'il reste de l'iman? Peut-être qu'il ne croit pas vraiment qu'il y aura une résurrection, ou alors que tellement le hubb ad-dunya est rentré dans son cœur et tellement il s'est éloigné d'Allah qu'il ne prend même pas conscience de ces choses-là. Il dit oui, tout ça, ça existe, mais c'est comme si qu'il y avait une barrière et qu'il ne voit pas. Il y a des gens qui sont comme ça, vous pouvez faire autant de bayan, autant d'explications, vous les donnez les livres, vous les faites ce que vous voulez, c'est comme si qu'il y avait une barrière. Ils ne disent pas que c'est faux, mais ils n'arrivent pas à mettre en pratique. Ils n'arrivent pas, et pour eux, non, ils relativisent les choses. Ils relativisent, et ils ne font pas le pas pour aller vers le amal, vers la pratique. Donc on voit quelle relation il y a entre cette catégorie de personnes, et sur le fait que ces gens, en général, ont un yaqin très affaibli sur l'au-delà. Alors, justement, pour juste un hadith concernant les personnes qui sont avares. Le passage du hadith, « Al-Bakhilu ba'idu min Allah » بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار. Que la personne qui est avare, cette personne est loin d'Allah. Cette personne est éloignée d'Allah. Cette personne également est éloignée du paradis. Et cette personne est éloignée des gens. On comprend qu'il s'éloigne d'Allah parce qu'il ne donne pas dans le chemin d'Allah. Ça c'est clair. Et s'il s'éloigne d'Allah, mais il s'éloigne du paradis forcément. Et il s'éloigne des gens également parce que, d'une manière générale, les gens n'aiment pas les personnes qui sont avares. Les gens, même si on ne les demande pas, mais le fait de savoir que cette personne est avare, est radin, comme on dit, alors les gens n'ont aucun muhabbat pour cette catégorie de personnes. Alors, s'il s'éloigne des gens, il fait aussi riche qu'il veut, mais s'il n'y a personne qui le fréquente, qu'est-ce qu'il va faire? Si une personne a tous les biens de ce monde, mais personne ne le fréquente, pas de fréquentation, pas de famille, pas d'amis, rien. Mais quel plaisir elle trouve dans la vie? Parce que les plus grands plaisirs qu'il y a, c'est avec la famille, c'est avec les échanges, c'est dans les relations avec les gens. Même si on vous construit un palais en or et en pierres précieuses, on vous donne les meilleures des nourritures qui existent, mais vous mangez tous les jours seul. Vous dormez tous les jours seul. Lorsque vous vous réveillez, vous voyez que votre palais en or, vous voyez que votre grande cour, votre jardin, votre je sais pas moi, votre yacht, votre ranch, si vous voulez, mais toujours vide. Mais qu'est-ce qu'il y a comme plaisir de la vie? Donc la personne qui est avare, elle s'éloigne des gens, et qaribu minan nar, et à partir du moment où elle s'éloigne d'Allah et elle s'éloigne du paradis, automatiquement cette personne s'approche du feu de l'enfer. Et le prophète dit wassakhiyu, et la personne qui est généreuse, qui fait preuve de générosité, qaribu min Allah, qaribu min al-jannah, qaribu minan nas, ba'idu min Allah, ba'idu minan nar. Et contrairement au bakhil, la personne qui fait preuve de générosité est proche d'Allah. Et comme il se rapproche d'Allah, parce que la sadaqa, ça éloigne les malheurs. La sadaqa, ça vous protège des choses qui auraient pu vous arriver. La sadaqa, ça, Allah Ta'ala est satisfait, très content d'une personne qui donne, ne serait-ce 1 euro, 1 franc, quelle que soit la somme, donne le chemin d'Allah avec sincérité. Et donc cette personne se rapproche du paradis. D'une manière générale, les gens aiment les personnes généreuses. Même si il ne va pas vous donner, vous, même si vous ne le fréquentez pas parce que cette personne est généreuse, mais le simple fait qu'une personne a grand cœur, comme on dit, je ne sais pas si c'est une expression en créole ou en mauricien, que son cœur est dans son main. Hein? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, vous avez besoin de lui, il vous aide. Vous avez besoin d'argent, il vous prête. Même si vous ne le demandez pas, si votre niyyah, ce n'est pas de le demander, Mais le fait de savoir que cette personne attache plus d'importance aux valeurs humaines, au muhabbat, à l'amitié, plutôt qu'à son compte en banque, mais ça vous fait comprendre que c'est quelqu'un qui a il y a beaucoup de sifat, qui a des qualités, et donc les gens fréquentent cette catégorie de personnes. Donc, qaribu minannas et ba'idu minannar, à partir du moment où la personne donne le chemin d'Allah, c'est une personne qui s'éloigne du feu de l'enfer. Et lorsqu'on disait que tout dépend du premier pas, tout dépend de ce qu'on montre à Allah, on veut se rapprocher de lui, Allah nous ouvre les portes du Kaboul. On fait preuve de négligence de l'ibadat, Allah nous est pour, on sait que les anges n'écrivent pas les péchés instantanément. Contrairement aux bonnes actions, lorsque vous faites le niyat d'accomplir une bonne action, Allah vous ordonne aux anges d'écrire la récompense, avant même de l'avoir fait. Lorsqu'on accomplit la bonne action, Allah demande aux anges de l'écrire multiplié par 10 au minimum. Et puis le maximum, Allah seul le sait en fonction de notre ikhlas, de nos qualités, Allah seul connaît les critères. Voyez ? Tandis que pour le péché, si la personne a le niyat de faire, tant qu'elle ne le fait pas, il n'y a pas de péché inscrit. Voyez ? Si la personne, par la suite, elle délaisse le péché, dit non, je ne vais pas faire ça, ça c'est haram, Allah Ta'ala ordonne aux anges d'inscrire un hasana, une bonne action, à la place de ce péché, parce qu'il a eu la crainte d'Allah, il a abandonné le péché. Maintenant, une personne a envie de faire un péché, et il l'accomplit. Le péché n'est pas inscrit tout de suite, alors que pour les hasanas, c'est inscrit avant même de le faire. La personne fait le guna, le péché, les anges ne l'inscrivent pas tout de suite. Les anges attendent, ils patientent, ils attendent, est-ce que cette personne ne va pas faire tawbah. Si la personne, tout de suite, elle se rend compte de son erreur, elle demande pardon à Allah, Inch'Allah, les anges n'écrivent pas. Mais si après un laps de temps, cette personne, il passe à autre chose, c'est-à-dire qu'il n'éprouve aucun remords, dans ce cas-là, les anges inscrivent ce péché. Voyez ? Donc, on voit l'importance du premier pas. Et justement, on voit qu'à travers la sadaqa, le fait de donner, ou le fait de ne pas donner, c'est un signe probant de notre bonne volonté. Allah Ta'ala peut nous juger en fonction de notre générosité ou en fonction de notre avarice. Parce qu'une personne qui donne, c'est une personne qui fait un pas vers Allah. Quelqu'un qui connaît qu'une personne a une difficulté, il va voir la personne et il donne. Alors que ce bien-là lui est cher. On sait qu'Allah Ta'ala dit au Coran, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Que Allah Ta'ala dit au Coran que nous n'atteindrons pas la piété tant qu'on ne dépense pas, on ne donne pas de ce chemin. On ne donne pas ce qu'on aime. C'est lorsqu'on donne ce qu'on aime qu'Allah Ta'ala nous accepte. C'est lorsqu'on donne quelque chose que le cœur est attaché. Cet argent-là, je l'ai gagné, ça. J'ai travaillé. C'était difficile, j'ai travaillé et je suis attaché à ce bien-là. Mais je prends une partie de cet argent, je donne à telle personne qui est dans la difficulté, ça Allah. C'est pas que quelque chose qu'on utilise plus dans la maison, des vieux vêtements ou des vieux meubles, on dit bon, viens, bah, ça, c'est pour où ça, ça te casse. C'est pas ça Allah. Ou alors quand manger finit gâté, ou alors quand le repas finit moisi, ou le manger dans le frigidaire depuis 2 jours, là on dit, viens, ça te casse, ça mange. Non, Allah il veut pas ça. Allah, qu'est-ce qu'il veut? Il y avait un stade, mashallah, quand il était amen, il disait que comment donner manger aux pauvres? Et ce qu'il a dit, c'était vrai, et je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, il y a des gens que lorsque le manger est fini, le lendemain, ils donnent. Je ne parle même pas de ça, ça c'est pire, ça c'est que plutôt que de jeter, je donne aux pauvres. Est-ce que c'est ça Allah, il veut donner? Non, je ne parle même pas de ça, ce cas de figure, on n'a même pas besoin de mentionner. En général, nous, comment on donne, si on donne à manger aux pauvres, comment on fait? C'est-à-dire que, par exemple, c'est le repas du soir, on mange à 20h. On met, madame y amène à marmite à table, on se sert, tout le monde mange, et il reste toujours un peu ça. Elle dit, un petit peu là, mettez un barquette, mi descend, mi sanama, mi donne bougla, mi donne chemin. Le manger, pas gâté, c'est le manger qu'on vient de manger. Peut-être qu'il est encore chaud, d'accord? Mais c'est pas comme ça qu'on donne. C'est pas comme ça qu'il faut donner. Un professeur avait expliqué, il dit, comment on donne? C'est lorsque le repas vient d'être prêt. La marmite est encore chaude, la marmite est encore sur le feu, avant de tirer, d'amener à table, avant de servir à la famille, vous tirez un peu, vous allez donner aux pauvres. Ça fait mal, ça? Non, mais ça ne veut pas dire qu'on est radin, hein? Mais on se dit, ça, à nous de manger, c'est pour les enfants, c'est pour madame, mais si midden maintenant, peut-être n'aura plus. Et c'est là qu'on voit le yaqin. Que barakat, c'est Allah qui met d'en manger. Ce n'est pas parce que vous faites un dé que vous allez plus manger. Parfois, vous avez vu l'histoire des mu'ajizat, des sahaba, un petit bol de lait, etc. Combien de personnes? Il n'y a qu'une différence. Il n'y a qu'une différence. On a peut-être dit, non, ben, doucement, on donne pas. Hein, la cuisse aux enfants, ils aiment ça. Hein, donne le blanc, hein, la croûte, un peu, donne ça. Ça, donne ça, non. Et pas trop massalé, mais ils aiment bien. Là, on aime tout. Là, on aime le riz, on aime le massalé, on aime le poulet. Ah, le blanc, on mange pas le blanc, sinon, mais tu as envie de goûter le blanc aujourd'hui. D'accord? Donc, donner avant qu'on mange, essayez. Vous allez voir, c'est dur. Vous allez voir que même vous allez le faire, mais il y a un petit pincement de le cœur, un petit gêne. Et c'est ça qu'Allah veut. L'antana, le birra, hatta, tunfiru, mimma tahibbun. On aime ça, quand ça vient de manger, vient d'être fait. Parce que quand j'ai mangé, madame a mangé, les enfants ont mangé, la nourriture est encore pas, elle est encore bon, mais je ne peux plus manger, le ventre est plein. Ça rentre plus. D'accord? Donc là on donne, c'est-à-dire que le cœur n'est plus attaché à cette nourriture. Mais quand j'ai faim et que je donne, pour manger, ça va, autre chose, autre sacrifice, autre récompense et autre preuve de présence de iman. Vous voyez? Donc donner, c'est montrer en Dieu, mais montrer à Allah notre bonne volonté. Vous voyez? Et on connaît l'histoire de cet invité qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait un sahaba. Le sahaba, il n'avait rien à manger, il avait juste pour ses enfants. Il a dit à madame, fais dormir les enfants et l'invité sera à table et j'éteins la lumière, je fais semblant que ça ne marche pas. Et pendant que l'invité mange, je fais semblant de manger. Je fais comme si je mâche. D'accord? Il avait à manger que pour une personne. Et il n'a pas donné à son épouse, ni à lui-même, ni à ses enfants. Il a donné à l'invité du Prophète sallam. Et le lendemain, le Prophète sallam a su qu'est-ce que cette personne avait fait. La personne n'est pas partie dire, hein, ni l'invité. L'invité n'avait rien compris. C'est Allah qui a mis dans le cœur le Prophète sallam. Et Allah Ta'ala a révélé ce ayat. Yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa. Hein, que ces personnes-là hein, qui donnent, même si eux-mêmes ils sont un peu de la difficulté, mais ils n'hésitent pas à donner. Donc, il ne faut pas croire que pour donner sa sadaqa, il faut être riche. Non. Parce que même si vous avez, 500 euros en banque, vous allez dire que oui, mais 500 euros, là, c'est pas assez ça. Si un jour je suis riche, je donne sa sadaqa. Quand vous aurez 1000 euros, vous allez dire que 1000 euros, oui, mais quand j'aurai plus. Et vous allez voir que même les gens qui ont les moyens, ils hésitent quoi donner, ils ont peur que ça diminue. Ça prouve également que yaqin n'y est pas. Parce que le prophète a fait qasam. Ma naqasa min mali, ma naqasa, je pas le hadith, ma naqasa mali min sadaqa, ou comme a dit le salam, le prophète a juré que la sadaqa ne diminue pas les biens. C'est pas parce que vous avez 100 euros, vous donnez un billet bleu de 20 euros, que vous avez moins. Mathématiquement, vous avez moins. 100 euros moins 20, ça fait 80. Sur le plan mathématique, c'est vrai, il y a moins. Mais Allah va mettre barakat dedans. Parfois, avec peu d'argent, vous allez faire des courses, vous avez beaucoup de machin, ça vous revient à 80 euros. Parfois, vous prenez 2-3 petites choses, ça revient à 90 euros. Vous lisez ticket, est-ce que j'ai pas trompé, il n'y a pas une erreur. Barakat, c'est autre chose. Il y a des gens qui gagnent beaucoup. Il y a des gens, des fonctionnaires qui gagnent 2000 euros, 2500 euros, et je vous assure qu'ils vivent souvent moins bien qu'une personne qui a le SMIC, qui gagne le SMIC. C'est Allah qui met barakat dans l'argent. C'est pas avoir beaucoup d'argent qui donne beaucoup de bien. Ça, il faut avoir yakin, il faut être clair, il faut bien comprendre que l'argent, c'est pas l'argent, bon, c'est pas le bonheur, bien sûr, c'est pas parce qu'on a plus d'argent que cet argent va rester plus longtemps. Il y a des fois où vous ne donnez pas sadaqa et Allah Ta'ala, il fait en sorte que cet argent, vous ne jouissez pas de cet argent. Vous avez une contravention, 35 euros, machin, ou alors le service des impôts, rattrapage, vous avez oublié telles affaires, et là, vous pensez faire des économies, et cet argent, il va d'un autre côté. Lorsque vous payez des impôts, vous savez, pas de savoir. Payez une contravention, vous avez des récompenses, non. Tandis que si vous avez donné dans le sadaqa, le chemin d'Allah, on aurait eu les récompenses. Donc, vous continuez encore 5 minutes. Donc, pour revenir, voilà, on comprend l'important du point. Paye. Alors, maintenant, dernière partie, face à nous, yassirou l'usra, et ça, c'est complexe. Parce que, écoutez déjà la traduction, ça paraît incohérent. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Comment Allah peut dire, on facilite à quelqu'un une difficulté? Et on facilite à quelqu'un l'accès à la difficulté. Ça veut dire quoi? C'est que Allah Ta'ala va faire en sorte que cette personne, pour cette personne, faire des bonnes actions sera difficile. Et faire des péchés sera la chose la plus attrayante, bien sûr, parce que les péchés, dans chaque péché, il y a un plaisir. Dans chaque haram, il y a un plaisir. Mais Allah Ta'ala fait en sorte que cette personne ne trouve son bonheur que dans le péché. Cette personne ne trouvera la quiétude que dans le péché. Et on connaît que le musulman, lorsqu'il est à la masjid, il se trouve, lorsqu'il est à la masjid, il se sent bien. Tandis que le munafiq, lorsqu'il va à la masjid, il est comme un oiseau en cage. Dès qu'un namaz finit, comme si la succès vous sort de Jamal Kana, sort de Ovi. Les gens comme ça, ils font pas sunnah de rien. Dès qu'un namaz finit, c'est comme si il y a le feu. Ils ont besoin de sortir, avancer, il faut trouver un place pour sortir. Ils ne peuvent pas rester dans la masjid. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous munafiques, hein. C'est parce qu'on voit une personne sortir que c'est munafique. Non, peut-être qu'il est pressé, peut-être qu'il y a autre chose, bref. Mais d'une manière générale, un musulman, lorsqu'il rentre dans la masjid, il trouve raha. Il trouve la quiétude. Et le munafique, il ne peut pas rester dans la masjid. Ça, c'est difficile pour lui. Même s'il va venir, mais juste, et puis il va repartir. Alors, continue encore 2 minutes. D'accord? Parce que ça, c'est long, ça. Il y a 4 points à développer. On développe ou on développe pas? Développe? On regarde. Alors, comment comprendre ce qui peut paraître paradoxal? Allah veut le bien pour nous, oui ou non? Oui. Mais comment Allah peut faciliter, 9h25, on a rien, Inch'Allah. Comment Allah peut faciliter une personne pour Allah peut aider, en guillemets, une personne pour que cette personne aille vers la perdition? C'est à partir du moment où la personne manifeste son manque d'intérêt pour Allah et pour son ibadat que Allah va lui donner une chance, 2 chances. Les péchés ne sont pas inscrits tout de suite. Il attend son istighfar, son tawba. Et puis à un moment donné, cette personne va s'enfoncer et rien ne pourra le ramener. Et on connaît l'exemple de Kallabal Rana ala Kulub. C'est quoi ça? Les muhadithis expliquent dans le hadith qu'une personne accomplit un péché, un point noir se forme sur son cœur. Si cette personne demande pardon, le point noir s'efface, s'en va. Si elle ne demande pas pardon et elle oublie, pour elle, ça s'appelle rafla, insouciance. Et la personne a fait d'autres péchés, un autre point noir. D'autres péchés, d'autres points noirs, jusqu'à ce que le cœur entier devienne noir. Et si le cœur entier devient noir, c'est comme si qu'il y a une carapace sur ce cœur. Il peut écouter des bayans, des khutbahs, des qirats du Coran, n'importe quel grand musulman, grand alim peut venir faire des bayans. Ces paroles-là ne feront strictement aucun effet sur la personne. Parce que le cœur est noirci, le cœur est mort. Le cœur n'entend plus, le cœur ne voit plus, et le cœur ne comprend plus les paroles d'Allah. Voyez, on voit que c'est pas que Allah il a jeté la personne dès le départ, c'est que la personne, elle s'est enfoncée dans les péchés jusqu'à arriver à un cas où elle ne peut plus s'en sortir. Ça c'était le premier point à développer. Deuxième point à développer, c'est un autre verset qu'Ibn Kathir, rahimahullah, explique. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. On retrouve le ayat. Oui. Allah Ta'ala dit que nous détournerons leur cœur et leurs yeux, leur regard, leur clairvoyance. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Comme ils n'avaient pas cru dès le départ, Allah Ta'ala détourne leur cœur. Ils expliquent, les cathés expliquent, je n'ai pas noté la traduction, donc je ne peux pas m'avancer sur la traduction. Ibn Kathir explique que وَنَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ, que les personnes qui n'ont pas cru dès la première fois, l'Allah a fait en sorte que, comme si qu'il y ait une barrière entre eux et le iman. Même s'ils voient tous les signes, même s'ils voient des miracles, ces personnes-là, mais non, cette personne ne porte plus iman. Ces personnes ne peuvent plus avoir le iman, ils ne peuvent plus retourner vers Allah. Et on peut se demander, est-ce que ce n'est pas une injustice de la part d'Allah? Comme on avait déjà expliqué ça il y a 2 ou 3 semaines, hein, le fait que Allah décide que cette personne reste dans le mauvais chemin et qu'elle y perdure et qu'elle y meurt. Et donc elle accède à l'enfer. Est-ce que c'est pas Allah qui l'a précipité vers le mauvais chemin? Non. Et là, on revient à ce qu'on avait dit, que le ilm d'Allah, Allah il sait ce qui est le passé, le présent, le futur, et Allah sait ce qu'il n'a pas créé. S'il l'avait créé, comment cette chose aurait été? On le répète encore une fois, si Allah il connaît que s'il avait créé telle chose, ou si Allah Ta'ala il sait que s'il avait décidé que telle chose se passe comme ça, et non pas comme ça, comment aurait été la donne? Comment l'histoire aurait été? D'accord? Ça, c'est l'ilm d'Allah qui est inconcevable pour nous. Et Ibn Kathir, il cite un ayat qui dit que Allah, il sait déjà à l'avance qu'est-ce que ces personnes diront. Antapoula nafsun, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Allah Ta'ala, il dit avant ce ayat, hein, il invite les musulmans, les êtres musulmans à retourner vers Allah, etc. Il dit que avant qu'une personne ne dise, donc le jour de Qiyamah, Ya haswata ala ma farratu fi jambillah, malheur à moi pour les manquements dont j'ai fait preuve dans le droit d'Allah, dans le haq d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah, il sait déjà à l'avance qu'est-ce que ces personnes vont dire. Également, لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Allah Ta'ala, il sait également que ces personnes, je le dis, lorsqu'ils disent que si j'avais une deuxième chance, si j'avais une deuxième chance que Allah me renverrait, me renvoyait sur cette terre, فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, j'aurais fait des bonnes actions. J'aurais été parmi les gens justes qui font les bonnes actions. Et Allah, il sait pertinemment que même s'il les envoyait, il les donnait une deuxième chance, et que Dieu a akhirat, après qu'ils aient vu le Jahannam, si Allah les renvoyait sur la terre pour faire de l'ibadat, Allah, il sait que وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allah, il sait déjà à l'avance à son ilm, parce que Allah ne les envoie pas là. Là c'est un peu complexe, je reconnais, mais reconnaissez à travers, comprenez à travers ces deux ayats la règle qu'on a dit. Allah, il sait que Allah ne va pas les renvoyer sur la terre. Il n'y a plus de deuxième chance au jour de Qiyamah. Mais Allah, il sait que s'il les avait envoyés, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Donc si Allah avait fait telle chose, Allah avait créé telle chose, Allah avait changé la situation, comment aurait été le dénouement? Pareil, Allah, il sait que s'il les avait envoyés sur la terre à leur demande, est-ce qu'ils auraient été parmi les muhsinines? Non. Ou alors, ruddu. Si, en ce sens, s'il les avait renvoyés, la'adu limanuhu anhu, malgré cela, malgré qu'ils aient vu l'enfer, etc., ils seraient automatiquement retournés vers le haram. Même s'ils avaient une deuxième chance pour retourner dans ce dunya, ils n'auraient pas passé leur vie dans le sida. Ils seraient retournés vers le haram, et c'est vraiment c'est eux les mentionnés dans la kadibou. Donc, ça reflète le ilm d'Allah, que même Allah, il sait à l'avance ce que la personne aurait fait dans tel cas de figure. Donc, la personne qu'Allah laisse enfoncer dans les péchés, c'est que la personne elle-même, elle n'a pas montré d'intérêt. Elle n'a pas montré d'intérêt pour le dîn d'Allah, pour l'adoration d'Allah. Donc, Allah Ta'ala a, en certain sens, délaissé cette personne. Autre ayat qui nous fait comprendre cela, Ibn Kathir, rahimahullah, il donne un autre exemple. C'est toujours dans le Sourate Al-An'am, quelques ayats plus loin. Voilà, j'avais déjà parlé cette fois dans Alam Nashah Laka Sadra. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ, lorsqu'Allah il veut qu'une personne soit de la perdition, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Cette personne va ressentir comme si que sa poitrine, avec la tradition, subhanallah, comme si que sa poitrine et se referme, comme s'il y a un gêne, hein, voilà, étroite et gênée, sa poitrine est étroite et gênée, et qu'elle ne peut plus porter iman en Allah. Ça, c'est lorsque Allah a décidé d'éloigner une personne de son chemin. Et Allah, il prend ce genre de décision en fonction des actions d'une personne. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, une fois, il était parti dans le Badia, dans le désert, pour poser une question à un arabe, c'est-à-dire une personne du désert, c'est les personnes qui connaissaient beaucoup la langue arabe, et il a demandé, qu'est-ce que ça veut dire al-haraja? Dayiqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama', il a demandé qu'est-ce que ça veut dire haraja, et ce bédouin a répondu que le haraja, c'est un arbre qui vient du désert, takunu bayna al-afjam, mais c'est un arbre qui, comme si que cet arbre se positionne entre deux arbres. Il est tellement haut que ni le berger ne peut pas l'atteindre, ni les animaux ne peuvent pas brouter de cette arme, ne peuvent pas profiter. Donc c'est un arbre qui a une telle hauteur que personne ne peut pas en profiter. Il est situé à tel endroit qu'il est totalement inutile. Et Umar ibn Al-Khattab dit que كَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ. Umar a dit que le cœur du munafiq, c'est pareil. Le cœur de l'hypocrite, c'est pareil. Rien n'atteint cette personne. Personne ne peut profiter, personne ne peut lui apporter quelque chose, parce que le cœur est déjà durci à cause de ses actions. Cette personne elle-même, elle s'est éloignée jusqu'à arriver à un point de non-retour. Ça s'arrête là, Inch'Allah. Et on citera juste le dernier point, et puis on a fini. Puis la prochaine fois, on va essayer de compléter Wallahi. Hein? Un autre ayat également qui montre que lorsqu'une personne, quand une personne manifeste le désir de péché et l'éloignement d'Allah, que Allah prend des décisions. Dans un ayat de Coran, Allah dit فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Cela concerne l'histoire du peuple de Banu Israël qui était avec Moussa alayhi salam, et Allah dit dans ce verset فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Voilà la traduction. Lorsque lorsqu'ils se dévièrent, lorsqu'ils ont, ils savaient que Moussa al-Salam apporte la vérité, mais ils ne voulaient pas croire, ils ne veulent pas obéir à Moussa al-Salam, lorsqu'ils se sont déviés, azab Allah quloubahum, c'est alors qu'Allah ta'ala a dévié leur cœur. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont montré leur manque d'intérêt pour suivre le dîn d'Allah et la religion de Moussa al-Salam, c'est à partir de ce moment-là, par rapport à leur refus, à leur réaction, qu'Allah ta'ala a pris décision contre eux. On comprend bien qu'Allah ta'ala est juste. Allah observe comment l'être humain agit, et en fonction de la réaction de l'être humain, Allah ta'ala prend décision contre cette personne. En ayat « Oman yushaqiq al-rasoul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin » Nouvelle ma tawalla ou c'est Jahannam. Pareil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne hein, qui s'éloigne du chemin que le prophète les a montré, alors Allah Ta'ala il fait telle chose, alors Allah Ta'ala il le destine à l'enfer. C'est pas dès le départ tout est perdu, non. Allah il observe, il laisse l'être humain agir en fonction de ce qu'il va faire. Allah prend décision et le ilm d'Allah, on le rappelle, Allah il connaît déjà à l'avance que Abu Bakr allait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah sait déjà à l'avance que Omar ibn al-Khattab, après avoir été le pire ennemi d'Islam, quelques années après, il va venir vers le droit chemin. Allah Ta'ala, il connaissait à l'avance que Abu Sufyan, après, subhanallah, après 10 années, où il était ennemi, à peu près 10 ans, il était ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après 10 ans qu'il gagne, qu'il va obtenir la hidayat. Allah, il savait à l'avance que le papa de Abu Bakr, Abu Quhafa, à l'âge de, je crois, 91 ou 92 ans, là seulement il va avoir iman en Allah. Et Allah, il connaît à l'avance que Abu Jahl va rester dans le shirk et qu'il va mourir dans le shirk. Allah, il connaît la réaction, il connaît comment les personnes ont réagi, et comprenant ce ayat que les personnes qui demandent à Allah, jour de Qiyamah, une deuxième chance, je retourne sur la terre, je fais les bonnes actions, Allah, de son ilm, il sait que s'il les avait accordé cette chance, cette deuxième chance, malgré cela, il serait retourné vers des péchés. Ça, c'est la connaissance, le ilm d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en résumé, on a compris que, on a beaucoup insisté, pendant 3 semaines, on a insisté sur ces 2 versets, pour nous faire bien comprendre, pour qu'on comprenne bien comment Allah ta'ala agit. Que, man qasad al-khayr bi-tawfiq ila, une personne qui a envie de faire des bonnes choses, ou qui fait des bonnes choses, Allah l'accepte. Et une personne qui veut faire des péchés, ou qui rentre dans les péchés, Allah Ta'ala peu à peu va laisser cette personne. C'est comme un bateau qui s'éloigne mètre par mètre, et puis jusqu'à ce que ce bateau soit totalement éloigné. Il y a le taqdir, et il y a en même temps l'agissement des gens, et au-dessus de tout cela, il y a la connaissance d'Allah. C'est complexe, mais c'est important à comprendre. Au moins, on sait que si on veut qu'Allah nous rapproche, si on veut qu'Allah nous ouvre les portes du tawfir, on doit montrer à Allah qu'est-ce qu'on peut faire. On doit montrer à Allah notre bonne volonté. Et c'est une petite histoire amusante, c'est pas amusant, mais c'est cité dans le tafsir de Al-Shankhiti, rahimahullah. Il explique comment, quelle différence il y a entre quelqu'un qu'Allah il le choisit pour les bonnes actions et quelqu'un qu'Allah choisit pour les péchés. Quand Allah Ta'ala a décidé d'aimer quelqu'un, faire les hasanats, ça devient comme quelque chose de naturel. Et cette personne a un dégoût, non seulement du haram, mais de quelque chose qui est douteux. Une personne qui est plongée dans le péché, il n'y a rien de plus amusant, de plus plaisant pour cette personne que le haram. Et le moindre chose halal, le moindre chose qui apporte des récompenses, c'est répugnant pour cette personne. Et Hacham Qayyuti, rahimahullah,